Un de test. Ok, tout le monde m'entend bien normalement et a priori, il y a des bonnes basses et un bon son pour ce soir parce que je suis dans des conditions idéales pour tourner, tout seul à la maison, pas d'écho, proche du micro, tout va bien. Ce soir, et donc dans cet épisode du Survivologue Underground, l'idée c'est de vous parler du crime organisé et de ses impacts sur les sociétés, la stabilité politique des pays, des régions, etc. Et comme souvent, je vais utiliser ma méthode d'analyse fétiche, à savoir du général au particulier, du connu vers l'inconnu, du stable vers le volatile, etc. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui bouge pas, qu'est-ce qui est gros, les gros ensembles, qu'est-ce que je connais déjà du sujet, tirer les principes de ça et après extrapoler sur la suite. Alors je préfère vous prévenir que l'épisode là, ça va pas être tout à fait la joie tout du long. Il y a beaucoup de mauvaise nouvelle, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, il y a beaucoup de trucs que je vais vous annoncer, vous allez avoir l'impression que tout va mal. C'est pas forcément le cas, il y a beaucoup de bonnes nouvelles aussi, mais il faut attendre à la fin, parce que avant de comprendre le problème et d'analyser le problème et de proposer des solutions, je pense que c'est important de se faire une idée claire de ce qui se passe. Et donc, vous avez besoin d'un petit paquet de Kleenex pour moucher votre nez pendant le podcast et que vous avez besoin de pleurer un coup, vous avez le droit de faire pause, pleurer, marcher, gesticuler, puis après revenez. Mais accrochez-vous jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des pistes de solutions et des pistes de travail. Point important à souligner, mon but ici, c'est pas de trouver des coupables et de pointer du doigt certaines personnes qui seraient plus à mettre en cause que d'autres. L'idée surtout, c'est de comprendre le phénomène de manière générale, de comprendre la mécanique sous-jacente, de comprendre les principes pour voir comment ça s'applique en France et surtout comment on peut y faire face, comment on peut régler nous en tant que citoyens les problèmes à notre petite échelle. Donc rien d'incriminant, rien de particulièrement savoureux à vous mettre sous la dent. Si vous cherchez mon doigt accusateur, vous le trouverez pas. Par contre, vous risquez de vous faire mal au cerveau en essayant de comprendre comment ça se trame et qu'est-ce qui se passe. Donc quand je dis du connu vers l'inconnu et du général au particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de faire un état des lieux général, un état des lieux historique, un état des lieux international, des phénomènes de type crime organisé pour pouvoir comprendre les principes, voir les constantes, et du coup pouvoir un peu comprendre comment ça évolue et comment ça peut évoluer dans l'avenir chez nous. Pour faire ça, j'ai pris trois grandes familles de crimes organisés ou de mafias assez connues à l'international. Évidemment, je vais me pencher avec vous sur l'histoire et un peu l'évolution des cartels mexicains et de leur rapport avec le gouvernement mexicain et l'État mexicain. Deuxième point assez connu en Europe et qui est un vrai sujet pour nous, c'est les mafias albanaises qui ont une très très redoutable réputation et qui sont pour le coup sur des modalités différentes mais avec plein de points similaires avec les cartels. Et en dernier lieu, j'aurais pu en prendre bien plus, mais j'ai choisi d'en prendre trois parce que ça suffira pour l'exposé. Je vais parler un peu des triades chinoises et de leur historique aussi. Et dans le but de voir un peu comment elles ont coexisté avec les États, avec les régimes, et comment il y a eu des allers-retours entre l'international, le retour en Chine, etc. Parce que encore là, on a un pattern qui est assez similaire entre les trois entités, quoi. Alors si on prend le cas du Mexique et des cartels, il faut se mettre dans l'idée que le Mexique, avant l'arrivée des cartels dans les années 80, était déjà un pays qui était bien corrompu, dont les institutions politiques étaient déjà bien corrompues, avec des conflits d'intérêts permanents, avec un historique assez complexe avec le PRI et avec plein de, je vais dire, magouilles, quitte à passer pour un méchant. L'idée étant que quand les cartels sont arrivés, le pays était déjà un peu mal en point, qu'il y avait beaucoup d'inégalités, qu'il y avait beaucoup de pauvreté aussi, et notamment dans la région du Sinaloa, qui est une région montagneuse un peu aride où c'est difficile de vivre. En fait, c'est pas très riche, c'est pas la ville, quoi, c'est vraiment la cambrousse. Et du coup, il y avait un mode de vie très agricole et assez précaire à ce moment-là. Et du coup, l'arrivée du cartel de Sinaloa et de des besoins en agriculture et en main-d'œuvre agricole qu'ils ont généré a vraiment permis de booster à fond l'économie de la région. Et on a vraiment eu un gros pic économique et un gros enrichissement de tous les paysans, de tous les fermiers, de tous les agriculteurs de la région via, à l'époque, au début, la culture du cannabis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, les cartels se sont retrouvés à vraiment être un facteur de développement économique incroyable dans ces régions et autour d'eux. Et ils amenaient énormément de pognon dans les villes où ils étaient, mais ils amenaient énormément de pognon dans les campagnes, parce qu'ils payaient la production, parce qu'ils embauchaient des gens, du paysan qui s'occupait d'entretenir les champs, au conducteur de camion, en passant par l'empaqueteur, le logisticien et tout le monde. Et donc, ça a vraiment créé du gros business. Et les chansons populaires à la gloire des chefs de cartel, encore aujourd'hui, ont vraiment la cote et font un peu l'éloge de ces gens-là et de leur fait héroïque et des moments où ils ont donné des coups de main à des gens qui avaient besoin, etc. Donc on a vraiment un truc très un peu schizophrène où on a d'un côté les cartels qui sont un peu qui font presque de l'humanitaire et qui sont un peu vus comme des gens utiles et bienveillants pour la communauté dans les campagnes et autour des endroits où la production a lieu, et qui en même temps, à certains autres endroits, vont être ceux qui s'affrontent entre eux, s'entretuent, se tirent sur la police et créent une insécurité monumentale. Et cette volonté-là de fidéliser un peu et de mettre de leur côté les populations pauvres et les gens qui sont autour d'eux, a eu pour effet de non seulement assurer un peu leur sécurité et faire en sorte qu'ils soient pas dénoncés et qu'ils soient moins emmerdés par les autorités, mais ça a aussi contribué à créer une base de légitimité pour eux et à ce qu'ils se sentent un peu le droit de prendre des parts entre guillemets dans la gouvernance et dans l'établissement des politiques et dans l'établissement de ce qui se fait et ce qui se fait pas dans le pays. Et du coup, la corruption à partir de là, parce que faut comprendre que le cartel du Sinaloa, mais après les autres aussi, sont des business qui ont généré des milliards et des milliards de dollars au fil des années. On parle de puissance économique vraiment importante qui représente une grosse proportion du PIB mexicain, okay, qui va après être réinvesti, après blanchiment des fois au Mexique, mais va être réinvesti un peu partout à l'international aussi, notamment aux États-Unis. Et on se retrouve avec des gens qui sont des moteurs pour l'économie et qui cherchent à montrer patte blanche et qui cherchent à se réinsérer dans des business plus légaux après, mais qui sont loin d'être si clean que ça. Et en même temps, si on va du côté des paysans, ils sont loin d'être si monstrueux que ça parce qu'ils ont vraiment fait du bien aux gens. Donc on a vraiment quelque chose qui est ni blanc ni noir et qui est dans une espèce de contradiction interne et qui montre bien toute la complexité du sujet, quoi. Ce qui est sûr, c'est que encore aujourd'hui, et dans les années 90-2000, début 2010, les taux de corruption et les niveaux de corruption qu'on atteignait dans les institutions au Mexique, que ce soit police, armée, justice, prison et même au niveau politique, à l'échelon régional, à l'échelon national, on avait des niveaux de corruption qui étaient astronomiques. Si bien que les chefs et que les cartels pouvaient plus ou moins faire leur business. Et voilà, c'était un extrait du podcast Le Survivologue Underground qui se trouve sur patreon.com. Vous cherchez Survivologue Underground, et sinon je vous mettrai un lien dans le descriptif de ce mini-épisode extrait. C'est un teaser, c'est frustrant, et je suis désolé si vous me détestez, mais en réalité j'ai envie de vous partager un peu des bouts d'infos et des débuts d'analyse comme ça pour vous donner envie de venir vous inscrire au Patreon. C'est du marketing de base de merde, je suis désolé. Mais je vous explique la démarche. Le but, c'est de pouvoir être complètement libre et de raconter exactement ce que je veux sur ce Patreon. Parce que même sur Deezer, Spotify, etc., je suis complètement dépendant du bon vouloir des plateformes de streaming et j'ai déjà payé trop cher ce genre de confiance et je préfère largement vous faire payer 5 € par mois ou 6 € par mois pour avoir accès au contenu, mais d'être sûr que vous allez y avoir accès si vous le voulez, plutôt que de voir mes contenus être shadowban ou carrément gicler des plateformes à des moments. Voilà, si les sous sont un problème, que c'est trop cher, que vous ne pouvez pas payer, contactez-moi, on trouvera une solution, il n'y a pas de problème. Mon but, c'est vraiment pas de me faire des sous, même si évidemment ça m'aide d'avoir un revenu fixe par le Patreon, ça me permet de libérer du temps pour ces analyses-là. Parce que forcément, je suis obligé de payer mes factures et de manger comme tout le monde, même si je suis instructeur de survie et anthropologue à cinq pattes, là. Voilà. Vous pouvez aussi faire un don sur le podcast, le Survivologue. Vous allez sur survivologue.org. Il y a le petit onglet soutenir. Vous faites un petit don par carte bancaire à partir de 1 €. C'est sécurisé par Stripe. Et sinon, inscrivez-vous sur le Patreon. Franchement, c'est top. Je balance plein d'analyses, plein d'outils. Je réponds aux questions. Je suis assez présent dessus pour que, y ait un vrai dialogue qui s'installe autour des épisodes aussi. N'hésitez pas. Au pire, vous prenez pour 1 mois, ça vous coûte 5 € et vous pouvez voir. Et si je vous répète, hein, si vous trouvez que c'est vraiment trop cher et que vous n'avez pas les moyens, contactez-moi, on trouve une solution. Je vous invite 1 mois ou 2, je sais pas quoi. Bref, ça s'arrange quoi. Voilà, détestez-moi si vous voulez, mais restez quand même pipou. Allez, ciao!